Loué soit Jésus-Christ.
Amen.
Très bien. Mon intervention n'aura certainement pas le côté vivant, concret, de ce que nous avons entendu, le merveilleux témoignage du Père Jean-Baptiste hier, de Michel aussi, ceux qui l'ont connu. Moi, je n'ai pas connu le Père Marie-Joseph. J'aurais pu le connaître, mais je ne l'ai pas connu. Donc, c'est à un autre niveau que je me situe. Mais il faut les deux, je crois, pour que différents faisceaux éclairent le portrait d'une figure aussi importante. Donc, je ne suis pas un témoin oculaire. Je n'ai pas vu, entendu le Père. Et donc, ce que je dirais, je le découvre aussi à travers les témoignages que je reçois, mais aussi à travers le livre, maintenant, de Didier, qui est pour nous une référence. On peut se référer à un écrit publié, soit dit en parenthèse, c'est le livre qui m'y fait penser, ces jours-ci vient de paraître un autre monument aussi de la spiritualité franciscaine, les œuvres, le totem de Saint François. C'est un événement très important pour la famille franciscaine. Nous avons pour la première fois accès à, j'allais dire, à une bibliothèque sur le premier siècle franciscain, et on aura aussi sans doute l'occasion d'en parler, parce que il faut saluer ce travail extraordinaire qui a été fait en un temps record, 3 ans. Donc voilà, je ne suis pas un témoin oculaire, direct. Et puis, dans la feuille que j'ai reçue, là, comme tout le monde, ben, je fais partie de l'association La Providence, mais comme tout le monde, j'ai reçu aussi le petit tract, il est dit que je suis le ministre provincial des Capucins. Eh bien, d'une certaine manière, j'aurais pu aussi intervenir comme assistant spirituel, mais le fait que je sois provincial donne à mon discours sans doute une autre tonalité. Je ne peux pas m'engager devant mes frères et devant l'ordre autrement que comme ordinaire de la famille capucine en France. Donc, je resterai le plus objectif possible. Si le Père Général me demande des comptes, eh bien voilà, je dirais mon PowerPoint, mon Père, regardez si c'est conforme à votre volonté. Voilà pour les introductions. Un mot d'excuse encore, c'est que je ne suis pas du tout un technicien de l'ordinateur. J'ai essayé de faire un PowerPoint. J'espère que je saurai l'exploiter maintenant que j'ai devant les yeux. Mais je me suis dit, il faut être quand même dans la technique moderne de communication. Au préalable, j'ai regardé attentivement ces jours-ci, en préparant cette intervention, que l'ordre des Capucins a connu un essor extraordinaire au début du siècle, grâce à un père général dont on fête cette année le centenaire, le père d'Andermatt, Bernard d'Andermatt. Cet homme-là a donné une pulsion de renouveau extraordinaire à l'ordre, à partir du début du XXe siècle, 1900. Je regardais aussi les statistiques que nous avons reçues de l'ordre. Je le dirai à la fin. Ce père Bernard Andermatt a donné une impulsion de sainteté, si bien qu'entre 1900 et 2000, nous avons 117 frères canonisés, béatifiés, ou dont la cause est introduite officiellement. Sur 5 siècles, nous avons à peu près 275 frères dont la cause est introduite, mais 117 rien que pour le XXe siècle. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un tel renouveau de vie spirituelle, de vie chrétienne et surtout de sainteté? C'est quand même pas rien, 117 frères. C'est dans ce contexte qu'il faut situer aussi la formation religieuse du père Marie-Joseph. Parce que ce que je vous dirai là, tous les frères l'ont vécu. Et sur tous ces frères, nous en avons 117 dont l'Église a dit, ben écoutez, ils peuvent être donnés en modèle à l'Église tout entière. Et ça, on le doit à la sainteté d'un ministre général, le père Bernard d'Andermatt. Mais revenons donc au père Marie-Joseph. Une question. Qui a connu le père Marie-Joseph lorsqu'il avait 50 ans? Ici. Il y a quelques témoins. Lorsqu'il avait 50 ans... Très bien. Bon. Lorsqu'il avait 50 ans, le père Marie-Joseph avait déjà 25 ans de vie religieuse. Lorsqu'il avait 50 ans, lorsque certains d'entre vous l'ont connu, il avait 25 ans de vie religieuse. Je dis cela parce que ce n'est pas un détail. Je vous le dirai tout à l'heure pourquoi. On estimait qu'au bout de 25 ans de vie religieuse, un frère capucin était formé. Donc, vous l'avez connu à l'heure où l'or pouvait dire « voilà un frère qui est formé ». 25 ans, c'est quand même beaucoup. Hein. Mais partant donc sur l'exposé, voilà donc les têtes de chapitre que je vais développer devant vous. Tout d'abord, la règle et les constitutions de l'ordre. Ah. Non, il marche. Ah, la technique. Donc, le premier point, en attendant que ça vienne, j'espère, c'est la règle et les constitutions de l'ordre des Capucins. Le deuxième point, c'est ce que j'appelais la conduite intérieure, et je vais vous en parler de cette fameuse conduite intérieure. On l'aura pas? Ah bon. Le troisième point, c'est la conformité au Christ humble, pauvre et crucifié. Le quatrième chapitre, c'est une vie de prière et de pénitence. Et puis le dernier point que j'ai déjà un peu abordé et que j'ai appelé l'immense cortège des saints. Voilà les têtes de chapitre. Nous sommes donc en 1925. Un an après son noviciat, le frère Marie-Joseph, je dis frère parce qu'en tant que provincial, je ne peux pas dire le père, d'Eckbolsheim. Pourquoi Eckbolsheim? Parce que ce qui compte, c'est le lieu du baptême pour un religieux. Comme saint Louis de Poissy aimait bien se faire appeler Louis de Poissy en raison du lieu de son baptême. Hein. C'est pas pour donner un titre de noblesse en plus. Donc, 1925, le père Marie-Joseph fait profession dans l'ordre. Et qu'est-ce qu'on dit le jour de la profession? Moi, frère Marie-Joseph de Eckbolsheim, je fais vœu et promesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours vierge, au séraphique Père Saint-François, à tous les saints, et à vous, mon Père, d'observer tout le temps de ma vie la règle des frères mineurs, confirmée par le Seigneur Pape Honorius, vivant en obéissance, sans rien en propre. Quand vous visitez la chambre du Père, vous voyez qu'il n'avait rien en propre, et en chasteté. Et en réponse, son ministre lui dit, « Et si nous observons ces choses, Dieu nous donnera la vie éternelle. » Ceci est très important. En vivant les promesses, il s'engage à obtenir la vie éternelle et le supérieur le lui promet au nom de l'Église. Donc vous voyez bien que cette profession, ce ne sont pas des mots qu'on prononce à la légère. La question importante dans l'Évangile, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien, nous sommes dans ce registre-là, pour avoir la vie éternelle. Et je suis sûr que le père Marie-Joseph, comme beaucoup d'entre nous, n'a pas laissé passer un jour, une semaine, sans penser ce à quoi il s'est engagé, vous comprenez? Pour la vie éternelle. Mais vivre l'idéal de saint François en observant la règle des frères mineurs. De saint François, en observant. Cette règle dont nous avons célébré l'approbation l'an dernier, les 800 ans d'approbation par l'Église. Alors je viens à la règle. En disant que sur le chemin de la vie consacrée, la règle de saint François et son testament demeure la référence première d'un frère. Et afin que la lettre devienne un souffle de vie, le frère doit connaître la règle et se laisser imprimer par elle. Pour nous, c'est notre chemin d'évangile, la règle confirmée par l'Église. Ainsi, un an après son noviciat, la veille de sa profession, le frère Prophée devait réciter devant son provincial par cœur le texte de la règle, la deuxième règle. Et tous les vendredis, on donnait, et on donne dans beaucoup de couvents encore, lecture publique de la règle et du testament. C'est vous dire que le frère est imprégné par ce texte. C'est son chemin de vie évangélique, c'est son chemin de fidélité à Jésus. Pourquoi dire le testament n'est pas un détail? Parce que, pour les Capucins, le testament, c'est le premier texte qui permet d'interpréter la règle. C'est ce qui nous distingue, par exemple, par rapport à d'autres branches du premier ordre. Ce n'est pas du tout polémique, mais pour nous, le testament, c'est la clé d'interprétation de la règle. Et donc, le père Marie-Joseph connaissait par cœur ces deux textes-là. C'est ce qui vous explique. Alors, ce qui est en bleu dans le texte, dans le PowerPoint, c'est les paroles du père, donc vous pourrez les distinguer facilement. C'est ce qui explique l'insistance qu'il donnait lui-même, qu'il faisait lui-même sur la règle et les constitutions quand il vous parlait de la règle et des constitutions. Certes, c'est pas la même règle, mais elle en est, et c'est la règle du tiers ordre, c'est quand même une règle profondément franciscaine émanant des textes de saint François et confirmée par l'Église, c'est ce qui fait l'importance. Et commentant cette importance donnée à la règle, il dit « Dans les règles laissées à ceux qui les veulent suivre, les fondateurs d'ordre expriment le plus profondément leur pensée et leur idéal. » Si vous voulez connaître quel est l'idéal d'un saint François, d'un saint Augustin ou de sainte Claire, eh bien il faut voir la règle. Et il dit encore « La règle que donne François à tous ses disciples est d'observer le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun fondateur d'ordre n'a établi ainsi la règle sur l'Évangile seul. » Voilà un commentaire du père Marie-Joseph sur la règle de saint François, qui est un document, qui sont des paroles très fortes. Hein. D'où aussi l'importance que le père Marie-Joseph accorde à la règle de l'ordre franciscain séculier en vous disant « Observez scrupuleusement la règle du Théo, ou du tiers-ordre. » Vous voyez bien que ce qu'il a reçu lui-même comme formation, il le transmet en l'adaptant à une communauté laïque. Ce n'est pas par une fantaisie personnelle qui va faire de la règle et des constitutions, d'où son engagement très fort au moment de la rédaction des constitutions, pour que ce soit un texte qui traduise le mieux possible l'esprit de saint François. C'est une plateforme commune sur laquelle on doit se retrouver. Alors, quelques mots sur les constitutions. Donc, le jour de la profession, les frères s'engagent à vivre les constitutions, la règle de saint François selon les constitutions. Les constitutions nous adaptent en quelque sorte au monde d'aujourd'hui l'esprit de la règle. Et là, j'ai cité deux passages des constitutions, l'une de 1909, l'autre de 1968. Je ne vais pas vous assommer de lecture, mais je prends que la dernière. Les constitutions, dit le texte, de miroir de la vie, ont toujours maintenu la vigueur et promu le développement de l'impulsion fondamentale de notre vocation. Notre vocation est maintenue par les constitutions, tendue vers la conversion du cœur en vue d'un renouveau continuel de notre ordre. Les constitutions permettent la conversion du cœur et le renouveau continuel de notre ordre. Je crois que les frères Carmes sont tout à fait aussi dans cette perspective, eux qui sont aussi un ordre de la réforme, n'est-ce pas? Il y a des fois où le mot réforme peut faire peur, mais pas dans la tradition carmélitaine ou la tradition capucine. Voilà le commentaire du père Marie-Joseph sur les constitutions. Vous comprenez aussi son insistance. Connaître la substance et les lois de la vie franciscaine mises à notre portée par la règle et les constitutions, expression authentiquée par l'Église, maîtresse et arbitre de la vie spirituelle. Lorsqu'on parle dans la fraternité des constitutions et de la règle, vous comprenez que ce n'est pas un détail, c'est pas facultatif, c'est notre charte de vie. C'est-à-dire, c'est la charte qui nous permet d'entendre dire « si vous observez ces choses, vous obtiendrez la vie éternelle ». Maintenant, un autre petit texte que vous ne connaissez peut-être pas tous, c'est ce qu'on appelait « La conduite intérieure ». « La conduite intérieure », c'est un petit livre, tout petit comme ça, que le frère portait dans une manche, dans une poche qui était cousue sur sa manche. Et il ne pouvait quitter ce petit livre qu'au bout de 25 ans de vie religieuse. C'est pour ça que je vous parlais de 25 ans de vie religieuse tout à l'heure. Et que dit donc, c'est un texte qui date de 1676, avec des adaptations différentes. Et je ne sais pas si le texte est clair en haut, mais pas tout à fait ici. En 1918, le général de l'ordre dit « Ce petit livre est un vade-mecum pour les religieux, un vade-mecum pour la direction spirituelle simple et substantielle, conforme à l'esprit de notre père séraphique. » Donc, le père Marie-Joseph, comme tous les bons religieux, avait ce petit texte sur lui. C'est un guide, un vade-mecum, dont nous allons lire ensemble quelques pages. Mais je vous invite à regarder la page à côté. Que nous bénisse la Vierge Marie, patronne principale de l'ordre des frères mineurs capucins, préservé par le Christ et défendu par saint François. Vous avez là tout l'idéal de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? La place irremplaçable de Marie, patronne de l'ordre. Donc la dévotion mariale figure dès la première page. Si vous voyez le nom de Marie, c'est le nom qui sort Virgo Maria en premier. Préservé par le Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'Immaculée Conception. Hier, on parlait de son attachement à l'Immaculée, de sa dévotion à Maximilien Kolb. Eh bien, Marie préservée, c'est l'Immaculée qui sort en premier comme titre marial dans la spiritualité des frères, et défendue par François. Eh bien, pourquoi défendue par François? Parce que l'ordre franciscain s'est engagé, notamment dans la défense du dogme de l'Immaculée Conception. À travers Danscott et puis d'autres docteurs de l'Église, jusqu'à Maximilien Kolb et d'autres encore. Donc ce qui est inculqué, c'est cette dévotion à Marie, préservée par le Christ, défendue par l'ordre. Chaque frère se sent défenseur du dogme de l'Immaculée Conception. Donc vous voyez bien qu'un frère qui porte cette conduite intérieure pendant 25 ans dans sa manche, ne peut pas passer à côté. La formation religieuse vous marque définitivement. Et quand il n'y a pas de formation, eh bien, les conséquences sont là aussi. Conduisez-vous selon l'esprit, c'est tout le but de cette fameuse conduite intérieure. Conduisez-vous selon l'esprit. Je prends une page, à partir du bas, il est dit aux frères, trois réflexions importantes pour tous les jours de votre vie. Tous les jours, vous devez penser à ça. Et pas seulement une fois par jour, mais trois fois par jour. Ne manquez jamais de faire ces trois réflexions en trois fois différentes de la journée. Donc le frère va penser trois fois par jour à ces points suivants. Le premier, en m'appelant à la vie religieuse, Dieu m'a fait une grâce que je n'ai point méritée. Une grâce qui n'est point accordée à tant de personnes qui en profiteraient mieux que moi. Je ne pourrai jamais connaître la valeur de cette grâce que dans le ciel, si je mérite d'y aller. On n'a pas le temps de commenter ces paragraphes point par point, mais vous comprenez aussi ce que dit le Père Marie-Joseph. Cela ne veut pas dire que tout le monde soit appelé à la même vocation, mais aujourd'hui je pense qu'il faut particulièrement le souligner, chacun a une vocation. L'appel particulier qu'est la vocation franciscaine est précisément une magnifique et réaliste réponse à l'appel général. L'importance de la vocation, de ma vocation. C'est ce que fait Sainte-Claire à la fin de sa vie. Je te bénis, Seigneur, de m'avoir appelé à cette vocation. Deuxième point, la vie religieuse est entièrement opposée à la vie du monde. Elle se conduit par d'autres maximes, elle prétend à une autre fin, par conséquent, je dois être tout le contraire de ce que j'ai été autrefois. Eh bien, hier, vous l'avez évoqué, le père Jean-Baptiste le disait, c'est tension par rapport au monde, à la télévision, etc. Cette logique, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et donc, voilà un commentaire du père. Il ne s'agit nullement de s'adapter au monde en dépit de l'esprit du Christ. On nous prendra peut-être pour des naïfs qui retardent sur le siècle, le chrétien ne sera jamais pleinement adopté par le monde et par ses principes. Tout ce que vous disiez hier, c'est un point de méditation que le frère, pendant 25 ans au moins, prend en considération trois fois par jour. Vous n'êtes pas du monde. Votre vocation est importante. Troisième point, Dieu mérite infiniment plus que je lui donne. Je ne saurai jamais dignement reconnaître ses bontés. Par conséquent, je ne dois rien épargner pour s'en servir et pour sa gloire. Quand même, je ferai plus et mieux que tout cela ne serait presque rien en comparaison de ce que Dieu mérite et de ce que je lui dois. Vous arrivez à lire le texte en haut là ? Voilà un autre point de méditation, un petit commentaire du Père. Il est certes nécessaire pour le réconfort des uns et l'édification des autres de discerner, de reconnaître tout le bien que l'Esprit de Dieu opère à travers une âme qui se fie à lui. Dieu fait des merveilles dans la vie de chacun, s'il est fidèle à sa vocation. Admirant les secrets de la bonté divine qui dispense ses bienfaits selon un mystérieux dessein. Toute la dimension du bien et des bienfaits de Dieu dans ma vie. Tout est grâce. Voilà pour une page de la conduite intérieure. Je passe à une autre. Voilà la conduite intérieure, mais bien agrandie, puisqu'il fallait pouvoir la mettre dans une poche. Conduisez-vous selon l'esprit selon l'esprit. Et je prends donc trois points qui sont dans la conduite intérieure. Conduisez-vous dans toutes vos actions d'après les trois pensées suivantes. Je vous les laisse lire puisque nous allons les reprendre une à une. Le premier, c'est l'amour de Dieu. Le deuxième, c'est vivre en présence de Dieu en conformité avec la volonté de Dieu. C'est pas des détails. Alors, ces points, je me permets de vous les développer. Quand je dis conduite intérieure numéro 53, c'est pas numéro 53, c'est page 53. Voilà le premier point. Conduisez-vous dans toutes vos actions, d'après les trois pensées suivantes, pour l'amour de Dieu, afin que lui seul soit glorifié sans aucune recherche de notre intérêt. Seigneur, faites éclater votre gloire, non pas pour nous, mais pour votre nom. L'amour de Dieu, ben le père Jean-Baptiste en a beaucoup parlé hier, et dans le livre de Didier, enfin dans le recueil, il y en a tellement de citations qui se rapportent sur l'amour de Dieu que vous avez mis une note en disant qu'il y a beaucoup de citations qu'on ne pourrait pas rapporter tellement elles sont nombreuses. L'amour de Dieu, je ne dis pas l'amour de Dieu du prochain, ça existe aussi, mais faisons une distinction. L'amour de Dieu, Dieu seul. Alors voilà ce que le Père vous disait. Saint François écrit le Père Gratien, donc un historien de l'ordre, s'attachait moins à enseigner des pratiques et à donner des recettes ascétiques qu'à inculquer des principes et mettre au cœur de ses disciples l'amour de Dieu, source et commencement de toute perfection. Voilà, l'amour de Dieu, c'est la source et l'achèvement de toute perfection évangélique. Eh bien, pour le Père Marie-Joseph, François est arrivé au sommet de cette perfection en vivant pleinement l'amour de Dieu. Mais un autre exemple, mais c'est pas réservé qu'à Saint François et à son ordre. Thérèse est arrivée aussi au sommet par cet amour de Dieu. La petite Thérèse remarquait que les œuvres les plus éclatantes ne sont rien devant Dieu sans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce qui explique aussi d'autres aspects de la vie chrétienne. Les plus petits actes d'amour de Dieu vaut plus de profit pour l'Église que beaucoup d'œuvres extérieures. C'est les enseignements que j'ai été trouvés. La vie religieuse n'a d'autre sens que l'amour de Dieu, la vie consacrée, et la vie conjugale aussi, puisqu'il vous dit, inculquez d'abord et avant tout à vos enfants l'amour de Dieu. Outre les principes d'honnêteté et de droiture, l'esprit de sacrifice et de service, pour l'amour de Dieu, tout doit être ramené à l'amour de Dieu. Deuxième point, j'espère que je ne suis pas trop long. Deuxième point, conduisez-vous en la présence de Dieu, qui est le témoin et qui sera le juge de toutes vos pensées et de toutes vos actions. Comment le Père Marie-Joseph commente cela ? En disant, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Mais voyez que ce qu'il dit, c'est le fruit d'une vie d'oraison, on en parlera tout à l'heure, où ces points sont approfondis tous les jours. Nous sommes en présence de Dieu. Ayez foi en lui, répétez-lui souvent cet acte de foi, en lui, sa divinité, en tout ce qu'il est, et en son amour, et en sa présence. L'importance de la présence de Dieu, nous vivons dans la présence de Dieu. Je vous laisse lire. Et puis l'Eucharistie, évidemment, qui est la présence de Jésus dans notre histoire. Il est là. Et alors, quand Dieu est présent, mais c'est tout le ciel qui est présent, d'où l'Immaculée, elle est présente, la Sainte Famille est présente, parce que lorsque Dieu est présent, c'est tout ce qui est en Christ qui sont présents dans notre vie, d'où cette importance sur la présence de la Vierge Immaculée, que nous disons le jour de la profession, la présence de la Sainte Famille. Il faut ouvrir les yeux du corps et de l'âme pour découvrir la présence et la grandeur de Dieu. Là, c'est dans la nature. Donc, devenir des quêteurs, des mendiants de la présence de Dieu dans notre vie. Être sûr que nous vivons dans cette présence de Dieu. Le troisième point, c'est esprit de conformité à la volonté de Dieu, parce que vous n'êtes au monde que pour accomplir ses adorables décrets. Un spirituel capucin du XVIIe siècle, le père Paul de Lagny, dit que le seul chemin de sainteté, c'est celui de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il suffit de faire la volonté de Dieu et tout vous est donné par surcroît. Encore faut-il pouvoir le vivre, on sait que c'est un combat de tous les jours. Et donc là, faire la volonté de Dieu, le Père Marie-Joseph parlera plutôt d'obéissance, de vouloir apprendre à obéir. Bon, c'est la même chose qui est dite. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que lorsqu'il parle de cette volonté de Dieu, de cet accomplissement de la volonté de Dieu, il le rattache, c'est là aussi que chacun interprète avec sa spiritualité qui lui est propre, il le rattache souvent à l'Immaculée Conception. Et on trouve beaucoup de choses sur la volonté de Dieu ou l'obéissance à Dieu sous l'angle de la Vierge Marie. Là, j'ai deux exemples. Puis à l'exemple de la Vierge Maman, soyez attentive, mais sans préoccupation, à faire la volonté de Dieu, en référence à Marie. Et à la fin de sa vie, en 91, cela devient une prière à Marie. Que je devienne vraiment une joie pour Dieu, comme toi à ton exemple, à ta suite, mais que je comprenne bien, pour être la joie de Dieu et heureux soi-même, il faut faire la volonté de Dieu. Ça devient une prière. Pour être la joie de Dieu, faire la volonté de Dieu. Je n'ai pas pris le temps de mettre cela dans l'ordre chronologique, parce qu'il est évident, je pense que Didier nous en parlera sans doute, ben, il est évident que quelqu'un évolue, approfondit sa spiritualité. Quand on prend les dates, je donnerai un exemple tout à l'heure, les unes après les autres, on voit que le père Marie-Joseph aussi évolue. Évidemment, il a vécu le concile, il a vécu les guerres, donc on ne reste pas figé à la conduite intérieure, mais on l'adopte et on la vit, on l'interprète comme un grand artiste. Voilà pour les trois points de quelques exemples sur cette fameuse conduite intérieure. L'autre point essentiel des constitutions et toujours aussi de la conduite, c'est la conformité au Christ pauvre, humble et crucifié. Alors voyez, quand vous lisez les écrits du Père, cela revient comme un leitmotiv, comme un refrain, humble, pauvre et crucifié, humble, pauvre et crucifié. Disciple donc authentique du Christ, François s'est engagé à suivre le Christ humble et crucifié et à se conformer. Je ne sais plus qui hier lisait un texte en disant s'identifier, c'est la même chose qui est exprimée, c'est devenir comme le Christ. D'où cette fameuse illustration de Murillo qu'on appelle la conformité. Il s'agit de devenir comme le Christ. Et là, vous avez un très beau commentaire de cette spiritualité du Père Marie-Joseph. Chez François, on ne pouvait pas remettre cela en question. Les stigmates ont été une confirmation vers la fin de sa vie de sa pleine conformité avec le Christ. Et puis après, il cite une parole de Paul VI, lors de l'approbation de la règle de l'ordre franciscain séculier, où justement, on nous dit, il faut devenir un autre Christ, alter Christus. Cela remonte à saint Bonaventure. La citation du pape Paul VI n'est pas sans une référence à la tradition. Devenir comme le Christ, image vivante du Christ. Un autre très beau commentaire de 70. La communion d'amour avec le Christ pousse à la conformité avec lui. Dieu nous a prédestinés à lui devenir semblables. Voilà tout un programme de vie religieuse chrétienne. Alors, comment est-ce que le Père Marie-Joseph vit cette conformité au Christ? Eh bien, tout simplement, la conformité au Christ pauvre et crucifié est nourrie par l'oraison. Et pendant, je ne peux pas tout lire parce que voilà ce que disent par exemple les ordonnances, on commencera l'oraison mentale par la lecture publique d'un sujet portant principalement sur la passion. Tous les jours, une des heures d'oraison est dédiée à l'oraison à partir de la passion du Christ. Et on connaît l'ouvrage que le Père Marie-Joseph a entendu des centaines de fois tous les jours. C'est un livre du Père Gaëtan de Bergame, un capucin du XVIIe siècle, qui était lu tous les jours au cœur pendant 365 jours, méditation sur la passion du Christ. Un jour, et le Padre Pio, par exemple, les autres saints ont médité le même livre tous les jours pendant une heure à l'oraison. Et un laïc a demandé au Père Pio, est-ce que vous avez un livre qui puisse m'aider à devenir saint? Le Padre Pio a donné la conduite intérieure, les pensées et affections sur la passion de Jésus-Christ de Gaëtan de Bergame. Et depuis, ce prêtre, c'était un prêtre, a fondé une congrégation qui n'a comme livre de référence que ce livre du père Gaëtan de Bergame, qui disait aux frères, appropriez-vous la passion de Jésus. Il a souffert en particulier cette passion comme si vous aviez été le seul pécheur du monde. Vous pouvez dire avec l'apôtre, le Fils de Dieu m'a aimé jusqu'à donner sa vie pour moi. L'importance centrale de la passion du Christ. Et vous voyez ce que le Père Marie-Joseph dit sur la passion. C'est des conseils qu'il donnait. Ne perdons jamais de vue la passion, la croix. Puissions-nous contempler avec respect et avec amour la passion de Jésus. En fait, c'est ce qu'il livre, c'est son expérience spirituelle. Aimez donc à comprendre ce que dit le crucifix. L'amour de Jésus en croix aide à se renoncer, à se maîtriser, à réfréner la sensualité et à se mortifier. Évidemment, ces textes, je les ai aussi un peu choisis en fonction du temps liturgique que nous vivons aujourd'hui. L'horizon est le chemin de la croix. Ceux qui l'ont connu ont certainement remarqué que ce bon frère capucin faisait le tour des stations du chemin de croix, au moins tous les vendredis. C'est comme ça qu'on apprend à être imprégné par cet acte d'amour, le seul grand événement de toute l'histoire humaine, qui est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le chemin de croix, qui est une dévotion profondément franciscaine, qui a été répandue notamment par Saint Léonard de Port-Maurice, et dont l'origine remonte évidemment à la liturgie du Vendredi Saint à Jérusalem. Oh, ces textes sont très beaux. Je ne sais pas si on a le temps de les lire, mais regardez-les. J'ai marqué en grand ce petit scrupule qu'a le Père Marie-Joseph en disant « Aujourd'hui, c'est vendredi et je n'ai pas pu encore faire mon chemin de la croix. » C'est vous dire à quel point il est imprégné par la nécessité de faire cette méditation, une méditation concrète qui se passe par un chemin. Hein? Ce texte est savoureux. Ça ne va pas bien, c'est pas si grave, enfin, vous voyez. Ce Rézel le fait pour lui, le chemin de la croix. C'est important. Un autre texte, un conseil qu'il dit, et pourquoi ne pas, si possible, le vendredi faire le chemin de la croix, qu'il dit à une fille laïque, consacrée. Bon, l'horizon, le chemin de la croix, pour se laisser pleinement imprégner par la passion de Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, disait saint Bonaventure, qu'un amour très ardent pour le crucifié. C'est peut-être pas très à la mode. Un nouveau chapitre, je sais pas si c'est le troisième ou le quatrième, peu importe, c'est la vie du père Marie-Joseph, comme pour beaucoup de ses confrères, une vie de prière et de pénitence. Quatrième station, marquée par l'oraison. L'oraison. Regardez ce que disent les constitutions. La sainte oraison est la maîtresse de notre vie spirituelle, la mère et la nourrice de toute véritable vertu, afin que l'esprit de dévotion qu'il faut désirer par-dessus toute chose ne vienne pas à s'éteindre ou à s'attiédir en nous, mais au contraire, pour que brûlant sans relâche sur l'autel sacré de notre cœur, il s'y embrase toujours davantage, selon le désir de notre Père Saint François, nous ordonnant que chaque jour on y consacre 2 heures ou 2 exercices spéciaux, un le matin, l'autre le soir, à l'oraison. 2 heures d'oraison par jour. Et ce petit détail, parfois les gens disent, mais comment faire oraison? Comment entrer dans l'oraison? Les constitutions disent, avant l'oraison du matin, on récitera la litanie des saints. Cet attachement aux saints est aussi concrètement inculqué, marqué par le fait que tous les jours, il faut dire la litanie des saints. Tous les jours. À l'oraison et à la vaisselle. Deux moments différents où les saints font partie de votre monde, de votre compagnie, et puis le soir, les litanies de la Sainte Vierge, celle dite de Lorette. Je ne sais pas si aujourd'hui, naturellement, on donnerait ce conseil. Et pourquoi pas? Voilà ce que vous dit le Père Marie-Joseph sur l'oraison. Deux fois par jour, donc, il commence en oraison en méditant essentiellement une parole de Saint François, « Qui es-tu, ô mon Dieu, qui suis-je ?» Je vous laisse découvrir ces phrases, coûte que coûte, pratiquer l'esprit d'oraison, que l'esprit nous accorde la grâce de l'oraison, qui est en fait un moment d'intimité avec lui-même, et un autre texte, vous voyez que la technique n'est pas toujours très bonne. Dans l'oraison, remets au Seigneur tes soucis, mais remets ton âme et tes soucis à la très sainte Vierge Marie. C'est une référence peut-être à la litanie de la Vierge Marie. Alors pourquoi la technique fait ce genre de coup, je ne sais pas. Alors, évidemment, cette phrase que vous chantez, mendiant en même temps la grâce de la prière et de l'oraison. Il nous faut être des hommes et des femmes d'oraison. L'autre exercice de pénitence, l'abstinence, l'austérité et la mortification étant si hautement louées, surtout dans la vie des saints, nous conjurons les frères qu'à l'exemple du Christ notre Seigneur, de Saint François, etc., observent le Saint Carême que notre séraphique Père avait coutume de faire, spécialement celui de la Bénédette. On ordonne en outre que pendant toute l'année, on ne mangera pas de viande, ni le mercredi, ni le samedi, le vendredi étant évidemment celui de l'obligation de toute l'Église. Non, il y avait quatre carèmes par an. Quatre carèmes par an. Une vie de pénitence. Mais vous direz, mais pourquoi? Mais ben, tout simplement parce que la pénitence, c'est aussi le lieu de la conversion. Et on a besoin de se convertir tous les jours. Et puis, une autre pratique, peut-être insolite pour beaucoup, mais qui relève du secret de son intimité avec Jésus. Nous voulons qu'on ne manque pas de faire la discipline habituelle, tous les lundis, mercredis et vendredis, même aux plus grandes solennités. Ça fait partie de la vie du Père, de sa relation d'amour avec le Christ. La discipline, c'est la flagellation. On ne va pas rentrer dans le débat, il y en a eu un à propos du pape Jean-Paul II, mais c'est leur relation au Christ, qui est marquée par leur temps, par leur formation, mais on ne peut pas taire ces jeûnes incessants et cette pénitence physique même. Mais on ne peut pas juger ni rentrer dans la discipline, sinon que c'est sa manière à lui d'être en communion avec Jésus. J'ai hésité à mettre cette phrase, mais je le mets parce que ça fait partie de la vie du Père Marie-Joseph. Mais voilà ce qu'il vous dit à vous sur la pénitence. Je vous prie de bien lire ces textes. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les conseils qu'il donne au début, dans les années 40, et les conseils qu'il donne à la fin ne sont plus les mêmes. Parce que, en 50, 60 ans de vie religieuse, l'Église aussi a changé de regard sur la vie de conversion. Et je voudrais noter, mais il y aurait tellement de choses à dire, et je regarde comme hier, Michel, avec hantise, l'heure qui tourne. La pénitence, à la fin, deviennent des petits gestes d'amour. Et là, on ne peut pas ne pas noter l'importance de la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux. Hein? C'est pas nécessairement la discipline. Faites-vous beaucoup ou quelques petits sacrifices avec le sourire. Aimez-vous la pénitence? Quels sont vos actes de pénitence ou de pauvreté? Tâchez que le petit secret vous devienne habituel. Quel est votre petit secret? C'est pas des choses héroïques, mais des choses toutes simples, faites par amour. On voit bien qu'à ce moment-là, d'autres influences spirituelles commencent à habiter le cœur du Père Marie-Joseph. Et à la fin, nous sommes en 63, il dit la raison d'être du tiers ordre, ordre de pénitence, c'est précisément de promouvoir à longueur d'année la conversion évangélique. Il ne faut pas faire pénitence pour pénitence, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est le premier objectif, c'est la conversion au quotidien. Évidemment, tout cela serait à exploiter, à étudier, à mettre en perspective, en raison même de l'histoire mouvementée et changeante que le Père Marie-Joseph a connue, mais là, on ne fait que les évoquer pour les développer une autre fois. Et aussi, l'importance du silence. Vous l'avez connu dans des dialogues, dans l'accueil des gens. Eh bien, dites-vous bien que le silence, la règle du silence fait partie du frère, de ces heures entières qu'il passe dans sa cellule et qui favorise cette intimité avec Jésus. Le Père Marie-Joseph n'a sans doute pas été un homme qui était tout le temps à accueillir, à parler, à donner des conseils. Mais les grands moments de silence, le silence étant gardé comme le meilleur soutien de l'esprit intérieur. Et là, quelques conseils. J'étais étonné de voir le nombre des conseils qu'il donne sur le silence. Pour entrer en contact avec Dieu, un certain silence s'impose. Mes enfants, je vous demande de partir en silence, de vous recueillir, de prier. Le silence est le premier grand acte de charité. Vous avez assez de temps à d'autres moments pour parler. Je reviens au premier point. Pour entrer en contact avec Dieu, un certain silence s'impose, chose presque impossible, vu les mille et mille bruits autour de nous et en nous qui harcèlent nos journées, tiens, ça c'est encore un autre banc, et compte tenu du prétendu besoin d'un fond sonore permanent. 69, il y a eu d'autres progrès, hélas, qui n'ont pas arrangé les choses. Et cette dernière prière, le Père Marie-Joseph demandant la grâce du silence à Saint Joseph. Saint Joseph, je voudrais être comme vous, un homme qui aime le silence et agit en silence. Et j'ai pris cette photo où on le voit presque en tête à tête avec Saint Joseph, l'homme du silence. Parce que c'est une ascèse, le silence. Eh bien, vous voyez que j'arrive à la fin. Donc tous ces gens-là, ce sont des frères qui, du temps du Père Marie-Joseph, étaient en voie de sanctification, de béatification. Et on l'a dit hier rapidement, mais on l'a dit, le Père Marie-Joseph connaissait par cœur tout ces figures de sainteté. Je ne sais pas si on peut vous les montrer, mais on reconnaît le Père Vitricius, Saint Léopold Mandic, en bas, parce qu'ils n'étaient pas encore montés en haut, et Saint Conrad. Ils sont tous là. L'importance de la sainteté, je m'excuse, ça fait comme une redite par rapport à ce que disait Michel, mais c'est la réalité. Dans notre branche, nous comptons 20 saints et bienheureux. Ça a augmenté, ça a triplé depuis, un si grand nombre de serviteurs de Dieu. Je me sens comme une faim de connaître leur vie, parfois tellement différente vu leurs dons, la diversité des frères. Vous n'avez pas deux qui se ressemblent. Parfois tellement différente vu leurs dons, travaux et réalisations, mais toujours identique dans son fond. Quel est le fond identique que lui discerne chez tout le monde, chez tous ses saints? La simplicité. Et Dieu sait s'il a insisté sur la simplicité. La pauvreté, l'humilité, l'amour de la croix, on en a parlé rapidement, la charité et la joie, l'abandon filial à Dieu le Père, la Vierge Marie. Leur esprit d'oraison et d'union à Dieu, esprit auquel toutes choses doivent servir, Ça, c'est une citation des Constitutions. Et c'est ce que je vous disais. Tous ces gens-là, et d'autres encore, ont été ses contemporains. Léopold Mandić, le père Pio, qu'il a connu lui-même, Nicolas de Gesturi, qui était un quêteur, Honora, une magnifique figure de sainteté en Pologne, dans la clandestinité. Peut-être l'a-t-il rencontré, puisque le père Jacques était venu, Jacques de Gazir, un Libanais, était venu faire ses études en France. Peut-être. Le père Vitricius, Cyril Zorabian, un évêque martyr arménien. Jacques, qui est enterré à Lourdes, et dont la tombe ne désemplit pas de fleurs et de pèlerins. Léopold, qui sera béatifié cet été, au mois d'octobre. Mariano de Torino, qui était ça sera sans doute la porte de la télévision, puisqu'il a fait des émissions de télévision pendant 30-40 ans. Il est mort en 72. Le père Romain, qui est aussi de notre province et qui est mort en Afrique, et dont le culte est public maintenant, on peut dire. Le père Albert, qui est donc le frère de Beretta Mola, la sainte, et tant d'autres. Vous comprenez que on se dit à un certain moment, s'il faut que je fasse partie de ce cortège, ben il faut que je devienne saint. Je ne veux pas traîner mes boulets. L'immense cortège qui n'est pas fini encore. Ah, vous connaissez ces statues? Vous l'avez vu à Beach? Eh bien, elle se trouve actuellement à Paris. On se demande pourquoi. Eh bien, c'est le père Marie-Joseph qui avait posé devant le sculpteur. Eh bien, la vocation de tout faire, c'est de devenir un alter franciscus, d'incarner l'idéal de saint François aujourd'hui. Et vous, sans le savoir, frères et sœurs, vous vivez une page de la conduite intérieure encore, vous, lorsque vous dites « Loué soit Jésus-Christ » que vous répondez toujours. C'est dans la conduite intérieure. Quand un frère voit quelqu'un qui vient pour lui parler ou qui fait son chemin, il doit le saluer honnêtement en faisant une inclination du corps en disant « Sois loué notre Seigneur Jésus-Christ » à quoi on répond toujours. Et c'est avec ça que je veux terminer.